Philosophe, la série de France Inter consacrée aux révolutionnaires de la pensée. Vladimir Jankélévitch, toujours en compagnie de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Vladimir Jankélévitch, le je ne sais quoi et le presque rien. On l'a évoqué, Cynthia Fleury, en introduction, la révolution Jankélévitch, elle tient à ces deux formules, le je ne sais quoi et le presque rien. Deux formules que l'on peut énoncer au quotidien et pourtant dont lui a fait une pensée extrêmement profonde. Pourquoi précisément avoir convoqué cette simplicité de langage-là? Qu'est-ce qu'elle exprime?
Il a voulu expliquer, je dirais, par toute cette formulation si humble, d'abord, je pense, l'infinité du monde, le fait que le philosophe n'est pas le monde est plus vaste que le philosophe, si vous voulez. Donc, malgré tout, le dire du philosophe est toujours en manque par rapport à l'immensité de, encore une fois, je vais reprendre ce terme, de la phénoménologie de ce monde, la manière dont le monde s'exprime. Et donc, pour rendre compte de la diversité de cette expression, il est allé chercher quelque chose qui lui paraissait à la fois juste sur le mystère du monde, oui. Je ne sais quoi. Donc, il fallait dire le mystère, il fallait dire l'insuffisance de l'homme, il fallait dire aussi le poétique et s'inscrire dans une vieille tradition autre, à la fois moraliste, parce que Gracian est aussi un moraliste, mais quelque chose qui est ouvert. Et donc, fondamentalement, il va aller chercher, si vous voulez, une autre façon de dire les choses de façon plus ouverte et surtout pas avec le dogme, surtout pas avec le discours, surtout pas avec la théorisation.
Parce que l'époque de Vladimir Jankélévitch, c'est une époque où il y a du dogmatisme, il y a les ismes, il y a des affrontements idéologiques majeurs. Il en a été le contemporain avant-guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale et puis même après. Et lui, pour les affronter justement, ces dogmes, il convoque ce « je ne sais quoi », ce « presque rien ». Et c'est, pour reprendre une expression de Nietzsche, de la philosophie à coup de marteau, il n'y a rien de plus efficace finalement.
Oui, c'est-à-dire que c'est très important, hein, parce que pour lui, le réductionnisme de la pensée, c'est le « isme ». Donc fondamentalement, il considère que c'est la faillite de la pensée que de virer à une idéologie, une doctrine qui tout d'un coup en fait est autologique, s'enferme sur elle-même et parfois
devient
même
système, devient système, exclut les autres,
censure la pensée. Donc si vous voulez, ce qui intéresse Jankélévitch encore une fois, c'est d'aller traquer la subtilité de l'être. Si vous voulez, et de pas, non pas d'aller traquer ce que l'on croit connaître. Et donc, il va s'intéresser véritablement à saisir cet inconnu du monde, ce mystère du monde. Et c'est très intéressant de poser la vérité toujours du côté du mystère, pas du côté de ce que l'on veut projeter.
Et de la certitude. Alors, on va s'arrêter sur le je ne sais quoi. C'est par exemple quand on a tout pour être heureux et qu'il reste un je ne sais quoi dans l'âme. Ou est-ce qu'au contraire, quand rien ne va, mais que malgré tout, il y a dans l'air un je ne sais quoi qui nous donne de l'espoir, qui nous revigore? Il n'y a pas de couleur particulière, avez-vous écrit à propos de Jankélévitch? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a une plasticité totale, parce que le je ne sais quoi, il est aussi raconté par la circonstance qui le porte. Et les circonstances, elles varient. Et d'ailleurs, Jankélévitch donnait un conseil pour saisir, d'une certaine manière, la finesse du je ne sais quoi. Il disait, bien sûr, si je vous parle de Venise, si je vous dis le soleil magnifique, et puis tout d'un coup, vous êtes devant, ces impressions à la Turner, etc. Bien sûr, vous allez comprendre le charme. Bien sûr, vous allez comprendre le je ne sais quoi. Mais mettons ça de côté. Allons à Roubaix. Et en fait, il y a du je ne sais quoi à Roubaix. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est que précisément, l'apparence de ce monde que, dans un premier temps, on croit sinistre, triste, monotone, sans intérêt. Et puis tout d'un coup, on saisit la réalité de l'être. Et la réalité de l'être, c'est qu'elle est magique partout.
Et particulièrement pour un homme qui a vécu à l'âge des extrêmes, comme on a pu le qualifier. On va citer Jankélévitch toujours. On peut, après tout, vivre sans le je ne sais quoi, comme on peut vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans amour. Mais pas si bien. Ah oui. C'est dans le pas si bien que se loge le je ne sais quoi.
Exactement, c'est pas si bien. C'est-à-dire que oui, il est tout à fait d'accord pour dire que, encore une fois, la question des besoins essentiels.
Oui.
parce qu'on revient à cette question, l'essence, les besoins essentiels, les besoins vitaux. Dans un premier temps, on peut se dire, bah, c'est boire, c'est manger, bon, puis ça s'arrête là. Se loger, et puis ça s'arrête là. Et puis en fait, non. Bien évidemment, même l'OMS est d'accord, l'Organisation Mondiale de la Santé est d'accord avec Jankélévitch quand elle dit que la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais c'est un état global de bien-être, etc. Ben, c'est pareil, Jankélévitch, il vous dit, ben, en fait, la beauté de la vie, elle se situe dans l'accidentelle, la rencontre, l'inconnu, le kairos, le rire, le subtil, tout ce qui n'est pas nécessaire.
Oui, tout ce qui, mais dans en l'humour. Fait,
qui est dans l'humour.
Il insiste d'ailleurs sur l'importance de l'humour, ce qui est aussi paradoxal parce que rares sont les philosophes ou ceux qu'on imagine être les sages. Si on pense à la peinture de Rembrandt qui représente le philosophe, on le voit sombre dans une immense pièce plongée dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui est sérieux, le philosophe. Et lui, il insiste sur l'humour.
Oui, oui. Et c'est très important parce que le concept de sérieux, même chez Jankélévitch, c'est un grand concept. Et très souvent, il dit « inutile d'être tragique ». Il suffit d'être sérieux. Oui. Et déjà, ça veut bien dire que tous ceux qui font des grands discours sur la tragédie, mon Dieu, il vaut mieux les laisser de côté. Et sans doute que l'humour sera tout simplement sérieux. Voilà, parce que ici et maintenant, tout est fermé. L'humour crée une échappatoire, crée tout d'un coup la possibilité d'une stance, d'une existence. Et ça, chez Jankélévitch, c'est très important parce que, voilà, encore une fois, on l'a dit, c'est un résistant, c'est quelqu'un qui a besoin, si vous voulez, qui affronte la question du chaos.
Bien sûr. Et vous nous avez donné un aperçu de ce que peut représenter le presque rien lorsque vous évoquiez le voyage à Venise. Ou le voyage à Roubaix d'ailleurs. Jankélévitch, c'est le penseur des paradoxes et c'en est un. Le presque rien, c'est ce qui manque lorsque on a l'impression que rien ne manque.
Oui, c'est-à-dire que le presque rien comme le je ne sais quoi, si vous voulez, c'est le double mouvement qui est d'abord, un, le mouvement de déficit, du manque. Donc de comprendre que tiens, le langage ne me permettra pas, par exemple, ou le concept, ou le discours ne me permettra pas de dire la vérité. Mmh. Et puis dans un deuxième temps, parce que heureusement l'être humain c'est aussi autre chose, une capacité imaginative, perceptive, le corps qui va raconter quelqu'un qui va me toucher simplement, et Jankélévitch va être capable de saisir un je ne sais quoi dans cette caresse, et de dire mon Dieu ça vaut un concept en fait. Ça vaut un concept parce que ça me raconte une qualité attentive au monde, etc.
Oui, mais ça veut dire qu'il veut qu'on en reste au stade des émotions ?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il donne aussi un autre statut aux émotions. Et ce serait sans doute quelqu'un qui, sur la question de la séparation entre les émotions, le rationnel, telle cartographie, telle frontière, etc., viendrait dire, écoutez, c'est pas très sérieux ce que vous me racontez là. Et de fait, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce qu'on sait très bien que les émotions sont cognitives, les cognitions sont émotionnelles. Et donc, tout ça, c'est ce que raconte Jankélévitch.
Il y a des émotions de la connaissance.
Ah bah bien sûr, il y a des émotions qui permettent précisément la connaissance et de toute façon, connaître produit un effet
dopamine.
Ça produit, donc c'est absolument indissociable. Nous sommes des systèmes vivants, nous sommes des systèmes qui activent ce qu'on appelle le système exploratoire, donc les théories de l'apprentissage, et puis le système motivationnel. Voilà, le corps, hein, et ça, c'est ce que raconte Jankélévitch. C'est pour ça qu'il vous dit que l'apparence, le corps, etc., c'est pas rien. Alors qu'il vient d'un monde où, précisément, on a dévalué le corps par rapport à l'âme, oui. On a dévalué la matière par rapport à l'esprit, on a dévalué l'existence par rapport à l'essence, on a dévalué l'apparence par rapport, encore une fois, à la substance, etc., etc. Donc, il vous raconte que non, la vie, c'est bien plus vaste que ça.
La vie, c'est aussi la musique. Ce je ne sais quoi ou ce presque rien, on en a parlé dans le premier épisode, il y a un art qui exprime mieux que tout autre ce je ne sais quoi. Un art que vénérait véritablement Jankélévitch, c'est la musique et en l'occurrence le piano. Ça n'est pas n'importe quelle musique. Lorsqu'il veut dire quelque chose du je ne sais quoi, il se tourne vers le piano, vers Forêt, vers Debussy. La musique témoigne du fait que l'essentiel en toute chose et ce je ne sais quoi d'insaisissable et d'ineffable, elle renforce en nous la conviction que voici, la chose la plus importante du monde, c'est celle qu'on ne peut dire. Auprès de cette chose-là, rien ne vaut la peine. C'est un extrait de quelque part dans l'inachevé. Qu'est-ce qu'il veut dire en faisant cette référence systématique à la musique ? Systématique, d'ailleurs, c'est un mauvais mot, en fait. C'est uniquement qu'elle accompagnait sa vie et sa pensée.
Tout à fait. Elle était absolument nécessaire à sa vie, à son vitalisme. Et elle était nécessaire à, encore une fois, à la mise en place de sa pensée. Donc, plusieurs choses. C'est-à-dire que l'intérêt, par exemple, de la musique, disait Jean Kalevitch, c'est que... La contradiction n'existe pas. Vous écoutez un morceau de musique, l'un va dire « Mais mon Dieu, la vérité de cette musique est terriblement mélancolique », l'autre va dire « Mais pas du tout, c'est la jeunesse qui s'exprime », et les deux ont raison. Alors vous allez me dire « Mais alors c'est n'importe quoi, c'est de la confusion ». Non, ça raconte tout simplement la vérité aussi que se joue à un instant T par la qualité différentielle de nos présences, des moments de vérité différents. Et c'est ça que ça dit. Ça dit pas que tout se vaut et tout est n'importe quoi. Non, ça dit que, bah oui, dans la relation intersubjective, dans la relation entre l'objet et la personne, dans son environnement, etc., il y a une complexité qui fait que soudainement, bah, on va dire que quelque chose est vrai de cette façon-ci.
Ce n'est pas du relativisme.
Non, c'est pas du relativisme. Mais alors, c'est ça qui est complexe pour les individus. Parce que, si vous voulez, c'est plutôt une position d'humilité par rapport à qu'est-ce qui peut être dit et certifié à tout jamais, et puis quelque chose qui cherche, par la vivacité de son dire, parce que c'est quand même aussi ça, Jean Kalevitch, c'est un style qui est extraordinairement musical, et on le voit, c'est comme des notes de musique, hein, et malgré tout, il a essayé, je crois, par son écriture stylistique, de se faire musique.
Hein. À la question « Auriez-vous pu être pianiste ?», il répondait par la négative. Je n'ai pas de doigts.
Non, je n'ai pas de doigts parce qu'il voulait dire qu'il était pas assez bon. Il le disait d'ailleurs, il disait je ne suis qu'un lecteur. Bon, un lecteur, ça veut dire qu'il déchiffrait péniblement les partitions et qu'il était comme ça alors qu'il aurait voulu être un virtuose de la musique, justement, parce que il a fait des pages entières comme ça sur Liszt. Et on voit d'ailleurs, c'est très intéressant,
sur le compositeur Liszt.
Le compositeur, parce qu'il dit au départ, bah, regardez-moi ce virtuose. En fait, il est là pour rechercher les applaudissements. Et puis, en fait, plus le livre avance et plus il va démontrer que pas du tout derrière la virtuosité, il se joue au contraire le grand savoir-faire, le grand geste, la beauté du style, d'autres diraient le compagnonnage, et en fait seuls les très 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 grands artistes arrivent à un moment donné à nous faire croire que tout est légèreté alors que c'est des mille et mille et mille et mille et mille heures de travail.
À suivre, Vladimir Jean Kalevitch, l'amour et le courage.